Attends. Personne? Ah, levez la main, allez, allez. Moi, je veux voir des mains, hein. Maintenant, levez pas la main pour me faire plaisir, hein. Si vous avez jamais été découragé, je vais prêcher quand même pour vous. Parce qu'un jour, ça va venir. On est humain ou pas? Hein, pincez-vous. Vous pincez le voisin. Eh oui, on est humain. Alors, on va parler d'un homme qui, justement, est passé pour le découragement. Un roi, chapitre 19, vous connaissez? Verset 1er. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est ainsi. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. Puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël t'ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul. Hein, je suis resté moi seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi devant, dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait des rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu rendras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. » Pourquoi Élie agit-il ainsi? Pourquoi prend-il la fuite pour sauver sa vie et paradoxalement demande la mort? Pourquoi s'est-il arrêté après un si bon départ? Parce qu'il avait pris un bon départ. Hein? Et pourquoi s'est-il découragé? Moi, j'y vois plusieurs choses. J'en ai donné quatre. Peut-être vous y verrez autre chose en plus. En tout cas, la première chose que je vois, c'est qu'il a regardé tout ce qui n'allait pas. Et il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc il y avait de quoi être découragé comme lui. Hein. Le verset 3 nous dit que Élisée, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Donc il s'est laissé impressionner par ce qu'il a entendu, des menaces. Celle de Jézabel, bien sûr, hein, la femme du roi Achab. Et elle avait, je dirais publiquement, juré de le faire mourir. S'il a fait au prophète, je vais faire pareil avec lui. Une menace de mort. Hein? Et voilà que lui se laisse impressionner par ça. Il se laisse donc arrêter. Il a peur et il prend la fuite. Alors, il est vrai que Jézabel était quelqu'un de redoutable. Elle était reine, bien sûr. Elle le prouve également. Parce qu'elle-même a fait exterminer tous les prophètes de l'Éternel. Mais je dirais qu'Élie a eu tort. A eu tort, justement, eh bien, de ne voir que Jézabel. De ne voir qu'elle. T'es incapable de voir autre chose, c'est-à-dire que quand le problème est là, c'est la même chose pour nous, hein, je parle pour nous aussi, c'est que quand le problème est là, on ne voit plus que lui. On est comme omnibulé, on est comme, je dirais, arrêté, et tout tourne autour de cette chose. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est une montagne. Vous voyez, même si c'est une petite montagne, c'est une montagne, on la regarde comme ça. Ça prend des proportions terribles. Et lui, eh bien, il s'est laissé impressionner. De même, nous aussi, nous ne devrions jamais, quelque part, nous laisser fasciner par les difficultés de la vie qui semblent autant de menaces, je dirais, venant de l'ennemi. L'ennemi profère contre nous. Il nous menace, nous fait croire que lui est plus puissant, plus grand, que nos problèmes ne se résoudront jamais, qu'il n'y aura pas de solution et que nous allons être terrassés. C'est même pas la peine d'insister, quelque part, de retarder en résistant. Non, non, c'est pas la peine, tu perds ton temps. Eh oui. Alors, ainsi, je dirais qu'Élisée a eu la mémoire courte, comme nous. Vous voyez, un petit peu. Il ne s'est pas souvenu que Dieu l'avait nourri par des corbeaux, alors que beaucoup mouraient de faim. Lui, il a pu résister, il a pu subsister, et il a pu aller plus loin. Que Dieu également avait approuvé sa prière en faisant tomber le feu sur son offrande. Il a joué un peu avec les mots. Peut-être que votre Dieu est en vacances, il est au Club Med, enfin, je ne sais pas trop. Voilà, il est à l'étranger, il va revenir. Voyez, faites-vous des incisions, c'est pour le, quelque part lui montrer que vous êtes consacré. Voilà. Mais lui, non, il a simplement dit, Seigneur, montre que c'est toi qui es Dieu. Au peuple, déjà, ils ont besoin de le voir, parce qu'ils ont quitté ton alliance. Et lui, il dit, moi, je sais que toi, tu vas le faire. Allez, on arrose bien, bien beaucoup d'eau. D'habitude, on arrose après, quand le feu a démarré. Mais là, il a fait arroser avant, lui. Il a pris ses précautions pour montrer qu'il n'y ait pas d'artifice autour. Que Dieu, c'est du concret. Et pour nous, c'est la même chose. Dieu, c'est du concret, il est vrai. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Il n'est pas comme les hommes de la société que nous rencontrons. Je ne parle pas que des politiques, mais une promesse est faite. Normalement, elle doit être honorée. Et Dieu sait ce qu'il fait. Il honore toujours ses promesses. Amen. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il a regardé également à lui-même. Ça vous arrive de regarder à vous-même ? Je suis beau. Je suis magnifique. Oh, la répartie que j'ai eue, là. Eh non. Je t'aime, Seigneur. Ça, c'est quand tout est bien, tout est facile, tout va dans le bon sens. Je t'aime un peu moins. Je t'aime pas la folie. Pour ne pas dire, Seigneur, je sais plus où j'en suis. Alors il a regardé à lui-même, au verset 4 toujours, « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'était vrai. C'était pas meilleur. Ce que je crois le meilleur, c'est que déjà on est en train de passer à côté. Eh oui. Alors ces paroles contiennent bien sûr une grande vérité, mais je dirais comme il y a une apparence d'humilité. L'apparence d'humilité d'Élie cachait, je dirais, le véritable état de son cœur, le malaise, qui avait quelque part détrôné sa confiance, sa foi. En l'Éternel. C'est ce qui était à l'intérieur. Eh oui. En fait, au lieu de regarder au Seigneur, à sa grandeur, à sa puissance, il n'a fait que regarder à lui-même. Vous voyez ? Ça ne vous arrive pas de faire pareil, vous ? Vous regardez un peu de ce côté aussi, parce que vous allez vous sentir visé de là. Mais oui ! On est un peu pareil, on regarde à soi-même. Eh oui. Alors, humainement parlant, comment aurait pu le trouver un réconfort dans ce qu'il voyait ? Le peuple avait abandonné l'Éternel. Il semblerait que l'Éternel était, lui, muet. Ou en vacances, je ne sais pas. Hein, pour lui, je ne sais pas comment il le voyait. Et puis, il y avait cette reine imposante, telle qui faisait la loi. Hein. Et que pesait cet homme, que pesait ce prophète face à la puissante reine, capable d'exterminer tous les prophètes de l'Éternel. Pas oublié. C'est quand même un acte terrible. Eh oui. Alors, fort logiquement, voilà que le découragement, eh bien, s'est emparé de lui, le doute envahit son cœur, il regarda à lui-même au lieu de mettre sa confiance dans le Tout-Puissant. Amen. Dans l'Éternel. Pourquoi ? C'est lui-même en parlant ce qu'il nous arrive aussi. Quand nous ne pouvons plus maîtriser les choses, que nous comptions sur nos capacités humaines, eh bien, quelque part, nous sommes comme étourdis, incapables de penser correctement, incapables, je dirais, de penser avec la foi, puisque nous regardons en nous-mêmes. Nous avons dit, je m'en suis toujours sorti. Pourquoi est-ce que cette fois, ça ne serait pas pareil ? On va y arriver ! Des fois, on se le dit, hein, comme à la méthode Coué. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ça va marcher. Et puis, ça ne marche pas. Oh, et là, on tombe de haut. Oui, parce qu'on n'avait rien préparé à côté. On ne s'était pas préparé devant Dieu. Et comme on ne s'est pas préparé avec Dieu, eh bien, ça, on tombe de haut, comme on est, comme il m'a été dit un jour, tu étais sur ton piédestal. Et oui, eh bien, c'est vrai. Alors, il a regardé à lui-même, au lieu de mettre en Dieu sa confiance, sa foi, son attente. Amen. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi l'Écriture dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. D'accord ? On est tous pareils, hein ? Il dit que nous, on est venus sur terre et nous, on repartira. D'accord ? Donc ça, c'est la réalité. Le mépris de soi également ne contient qu'une apparence de sagesse et contribue en réalité à la satisfaction de la chair. C'est un petit peu ce qu'explique l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 20, jusqu'au verset 23 inclus. Hein. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi ? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Prétextes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en effet, à la vérité, une apparence. Vous voyez, c'est qu'une apparence. Une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent, et c'est là que j'en viens, à la satisfaction de la chair. On m'a dit qu'il ne fallait pas toucher, je n'ai pas touché. Ah, je suis bon, formidable, je suis bien. Quelqu'un de extraordinaire, ou d'extraordinaire si vous voulez. Mais la vérité, elle est là. C'est que je ne suis pas extraordinaire. Quand Dieu me dit de ne pas toucher, de ne pas faire, je vais justement éviter de toucher ces choses-là, non pas parce que je veux paraître comme quelqu'un de grand, de formidable, mais parce que je veux plaire à Dieu. Et puis, comme je ne suis pas maso, eh bien, je veux m'éviter quelques coups. Ben, je ne sais pas si vous aimez les coups, vous. Vous aimez les coups ? Levez la main. Non, mais on est pareil. Hein. Alors, obéissons de cœur. Alléluia. Non pas par obligation, parce qu'au-dessus de nous, il y a l'épée de Damoclès, qui un jour s'abatte. Non, je vais le faire parce que j'aime le Seigneur. Parce que je veux lui plaire. Bien sûr, ça m'évitera les coups. Ça m'évitera les difficultés, certaines, disons. Hein. Et oui, ça m'évitera de me faire mal, bien sûr. Alors, si je reviens un petit peu à ça, ce qui contribue à la satisfaction de la chair, nous savons qu'il n'y a rien de bon en nous. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là ? Seigneur, il n'y a rien de bon en moi, alors pourquoi je me casserai la tête ? Pourquoi est-ce que je ferai des efforts ? Et rien de bon à moi. Quand je suis rentré aux pompiers de Paris, il y a une méthode particulière dans les pompiers de Paris. Hein. Vous n'êtes pas bon, vous êtes mauvais. Tous. Vous n'êtes pas des cajoux, mais vous êtes des wagons de cajoux. Encore. Et en avant, et en avant, et en avant. Mais on nous brise pourquoi ? On cherche à nous briser pourquoi ? Pour que nous sachions résister. Parce qu'en opération, chacun compte sur l'équipier à côté de lui. Et même celui qui est au camion à la pompe, on compte sur lui pour avoir l'eau là-haut, dans le feu d'appartement. Vous comprenez ? Donc, on teste. Et Dieu, quelque part, nous fait passer lui aussi au test. Est-ce que je vais me laisser stopper, arrêter par la difficulté ? Est-ce que vous comprenez tout, vous ? Certainement, hein, vous n'êtes pas comme moi. Moi, il y a bien des choses qui me dépassent, que je ne comprends pas, que je ne sais pas comment je vais faire. Bon, écoutez, d'une manière, c'est bon parce que ça m'apprend à dépendre de Dieu. Vous voyez ? Faire tout petit, de dire, oh, je n'ai pas l'explication là, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que toi, tu sais. Amen. Si moi, je ne sais pas, toi, tu sais. Et à partir de là, puisque tu sais, je vais te faire confiance. Si tu me dis attends, hop, j'attends. Si tu me dis va à gauche, hop, je vais à gauche. Si tu me dis allez, saisis-toi de ça, je vais me saisir de ça. C'est-à-dire que je vais faire exactement ce que Dieu me dit de faire, là où il me dit d'aller, la manière dont je dois le faire. Quelquefois, ça coûte aussi. Parce qu'on va passer pour, vous savez, un petit peu un demeuré, un minable. Un faible, un fragile. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ça va toucher à mon ego, peut-être. Je vais être un peu moins fier de moi. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que c'est Dieu qui justifie. Je suis passé par là. C'est des situations que j'ai vécues, ce dont je vous parle ce matin. Des situations que j'ai vécues où j'ai dû, quelque part, me faire tout petit, accepter la remontrance, accepter également la punition, la mise à l'écart. Mais quelques temps après, on m'a rappelé. Et là, j'ai pu dire, eh bien, écoutez, vous m'avez dit, hop, voilà, la sanction est tombée. Même pas droit à la défense, même pas droit à me justifier, mais j'étais condamné. Alors j'ai accepté. Et puis quelques temps plus tard, on m'a rappelé en me disant, reprends ton poste. Et oui, ben, ça avait fait des dégâts entre-temps. Vous voyez ? Et là, je ne suis pas arrivé comme le vainqueur en essayant de dire oh, « ça vous apprendra ». Non, pas du tout. Je suis rentré tout petit. C'est Dieu qui justifie. Vous comprenez ? C'est Dieu qui nous donne raison, c'est Dieu qui nous met, je dirais, à manière à être élevé, ou c'est Dieu qui nous rabaisse. Et il faut accepter. C'est des choses qui peuvent vous arriver. Et à ce moment-là, eh bien, il ne faut pas vous laisser décourager. Et il y a accepté. À un moment donné, puis il a craqué à un autre moment, il s'est laissé décourager, il est parti. Alors, quand je dis que rien n'est bon en nous, ça ne doit pas nous arrêter, parce qu'il faut regarder au Seigneur, lui il est grand, il est bon, il est tout puissant, et avec lui, eh bien nous serons vainqueurs. Troisièmement, c'est là où je vais en venir tout à l'heure, en vous disant qu'il a pris la fuite, il s'est isolé. Vous remarquerez qu'il y a, tout, il y a là des syndromes de, comment on appelle déjà, de, hein ? Vas-y, vas-y, la D ? Dépression. C'est des syndromes de la dépression qui sont là. Hein, il s'éloigne, hein, il l'a là dans le désert, à une journée de marche, au verset 4. Hein. Alors, il est fréquent de voir... celui qui est découragé sur la société et même, je dirais, le contact de ceux qui pourraient l'aider. On est vraiment aveuglé. Hein. Un jour, je visitais une jeune fille de l'église dans une certaine ville, je ne vous dis pas où, s'appelle Aline. Et je prends rendez-vous avec elle, je vais la voir. Je dis, Aline, qu'est-ce qui se passe ? On ne te voit plus, tu as un problème. Tu dis si tu as un problème. Elle me dit, oui, mais je préfère me tenir à l'écart Comme ça, j'y verrai plus clair. Vous n'avez pas remarqué que les couples qui prennent du recul, c'est rare quand ça redevient normal. Vous n'avez pas remarqué ? On le voit dans la société. Hein. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on doit le voir chez les chrétiens, ou qu'on doive le voir. Ça arrive malheureusement. Mais on ne devrait pas. Alors, prendre du recul vis-à-vis de Dieu. Vous savez, c'est comme la chèvre de M. Seguin, qui croit que l'herbe est plus verte ailleurs, qui prend du recul. Vous voyez ? Et puis hop, elle s'échappe, et hop, elle prend le sentier qui monte, l'herbe est verte là-haut. Elle a oublié qu'il y avait le loup. Et l'adversaire est un loup, un lion rugissant, qui aiguise ses appétits, lui. Je vais me faire un fricot. Vous comprenez ? Eh oui, se tenir à l'écart. Eh bien, c'est se tenir, on va le voir tout à l'heure, loin de la solution, loin du secours, loin de la réalité. On n'est pas en phase avec l'Évangile à ce moment-là. Hein. Alors, sommes-nous de ce que dit le Proverbe 18, verset 1 ? Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Vous voulez la suite ? Eh oui, parce qu'elle y est la suite. Hein. Des fois, on s'arrête là. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Eh bien, ce qui est sage le condamne. Ce qui est sage lui fait des reproches. Non, tu n'es pas correct. Oh, mais c'est pas ça que j'attendais. J'attendais que tu me flattes un peu. Vous voyez un peu ? Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Alors, par son entêtement à rester seul, l'homme découragé se prive lui-même d'une grande, grande, grande bénédiction. Amen. C'est le psalmiste qui rage qu'à dire, psaume 77, verset 3, « Mon âme refuse toute consolation. » Mon âme refuse toute consolation. Oh. Alors cette attitude, eh bien, le fait nager en pleine contradiction. Verset 3, 1 Roi 19, verset 3, « Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. » Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et, écoutez bien la fin, il demanda la mort. Vous y comprenez quelque chose ? Ben oui, la déception ne nous fait pas voir clair. Au contraire, on est comme embrouillé. On est dans un brouillard. On n'y voit plus rien. On n'y comprend plus rien. Eh oui, il fuit Jézabel qui veut le tuer. Donc, si je comprends bien, ben, il fuit pour échapper à la mort. Et en fin de compte, c'est lui qui demande la mort. Oh. Et là, vous lui diriez, Élie, ça ne va pas. Vous direz, c'est toi qui ne va pas bien. Vous n'avez pas remarqué ça ? Hein ? Eh oui, quand on voit ces choses-là, bien sûr. Alors c'est paradoxal, c'est complètement incohérent, mais c'est ainsi. Et ce n'est pas en s'isolant, eh bien, que viendra le bon sens, le courage, la force. Non, non, ça ne viendra pas comme ça. Alors la dernière chose, la quatrième chose, c'est qu'il a cherché sa joie, oh, sa récompense, sa joie, comme vous voulez, dans les résultats et non dans l'obéissance. Ce que Dieu nous demande, est-ce que c'est du résultat ? Ce que Dieu nous demande, c'est de l'obéissance. D'accord ? Même plus que les sacrifices. L'obéissance. Donc, il a obéi scrupuleusement à la parole de Dieu. Voilà que le peuple ne l'a pas suivi. Même pire, ils ont abandonné l'alliance de Dieu. Certainement qu'ils ont fait des reproches. Tais-toi ! Prophète de malheur. Toi, tu leur veux le bonheur. Eux, ils te traitent de provoqueur de malheur. Alors, c'est Dieu, c'est ce qui ressort de l'Écriture, en Roi 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, donc il rappelle un petit peu les pères, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Jusque-là, tout va bien. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 1 Roi, chapitre 19, verset 9. Ça, c'est après. Hein, le feu est descendu, etc. Tout va bien, normalement. Là, il entra dans une caverne. Et il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ? » Répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Une deuxième fois, Dieu s'adresse à lui, c'est au verset 13. « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à m'ôter la vie. Alors nous pouvons comprendre, humainement parlant bien sûr, la tristesse d'un chrétien fidèle qui constate l'échec de son témoignage. Ou si vous préférez, le peu de résultats d'une action. « Ah, ce que j'ai fait pour lui, regarde comment !» Il réagit à mon égard. Pourtant, je lui ai donné tout ce que j'avais de plus cher, vous voyez. J'ai fait confiance. Et ou d'un travail pour le Seigneur. Hein. Voilà, on compte. Sur beaucoup, il n'y a rien. Ou il y a peu. Ou très peu. Alors, est-ce que pour autant, Dieu est toujours là ? Eh oui. Dieu est toujours là. Notre salut, il est bien réel. Je suis sauvé. Pas parce que j'ai fait, mais parce que j'ai obéi. Parce que je me suis repenti, parce que j'ai abandonné ce qui était mauvais, ce qui me détruisait, ce qui me condamnait. J'ai laissé tomber toutes ces choses. J'appartiens au Seigneur. Donc le salut, il est bien réel. Et un jour, nous le verrons. Pas oublié. On est plus près aujourd'hui qu'au début de notre conversion. Et demain, on sera encore plus près. Et après demain, encore plus. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Eh oui. Alors, Dieu est toujours là. Notre salut étant bien réel. Un jour, nous allons le voir. Nous le connaîtrons à ce moment-là, comme nous avons été connus. Alors, ça nous engage à quoi ? Il n'y a pas de piège. Ça nous engage à nous réjouir. À cesser de regimber ou de cogiter. Vous savez, on se fait des nœuds. Même Madame Soleil s'est fait des nœuds. Vous connaissez son histoire, Madame Soleil ? Ah, Madame Soleil qui téléphone ? Il aurait mis un coup de téléphone du Seigneur. Hein. Vous ne croyez pas ? Madame Soleil, elle se tirait les cartes. Elle les tirait pour les autres, mais elle se les tirait pour elle. Et puis, elle arrivait à un moment donné où elle ne trouvait plus rien de bon. Et un jour, elle est tombée malade. Elle a dit, ça y est. C'est ce que je voyais là au bout, dans mes dernières cartes. Elle est tombée malade, elle était hospitalisée pour des soins. Et là, dans la chambre d'hôpital où elle était, elle s'est retrouvée à côté d'une chrétienne, une enfant de lumière, amen, une croyante, une disciple de Jésus-Christ. Et elles ont conversé ensemble. Je suis voyante. « Je suis chrétienne, j'ai la lumière, et toi tu as les ténèbres. » Et finalement, Madame Soleil ne pouvait pas voir plus loin, parce qu'après ça ne lui appartenait plus. Et elle s'est convertie. Elle est morte aujourd'hui. Hein. Mais vous voyez un petit peu, ce qui appartient au royaume de Dieu, c'est au royaume de la lumière. Et nous en faisons partie. Dieu sait ce que nous allons devenir demain. Dieu sait ce que je vis aujourd'hui. Alléluia. Alors comme il dit, réjouissons-nous d'abord de ce que nos noms sont inscrits dans, dans le livre des cieux, dans les cieux. Et c'est ce que dira Jésus aux disciples, Luc chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Vous savez, ils avaient été envoyés deux par deux, avec le pouvoir, l'autorité, etc. Ils sont revenus. Oh là là, formidable! Qu'est-ce que c'est beau, le royaume de Dieu! On commande et ça arrive! Les démons tremblent devant nous. Alléluia! On est fort, on est super, on est puissant. Mais ce que leur dit Jésus, réjouissez-vous d'abord de ce que vos noms sont inscrits ou écrits dans le livre qui est dans les cieux. Réjouissez-vous d'appartenir au royaume de Dieu. Ça, c'est le plus important. Amen. Voyons maintenant comment Dieu va guérir le découragement d'Élie. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a envoyé un ange. Le mot « ange » signifie « envoyé ». Alléluia, ne vous renvoyez pas à vous l'ange. Hein? Alors pour nous, Dieu a envoyé qui? Il a envoyé Jésus. C'est pas anodin. Hein? Jésus, c'est la lumière du monde. Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Alors il est venu avec un baume pour nos blessures, une nourriture pour notre âme fatiguée. Quelle nourriture! Avec cette nourriture qui n'était pas grand-chose, hein, eh bien, il va pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits. Je pense que les coureurs cyclistes, je pense que les sportifs qui font du biathlon en ce moment, là, sur la neige, eh bien, ils aimeraient cette nourriture pour marcher 40 jours et courir 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer. Formidable, hein? Eh oui. Alors, j'en dirai ceci. Je suis le pain de vie. C'est pas Jean, c'est dans l'évangile de Jean, mais c'est Jésus qui dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc l'ange ne va pas faire un long discours. T'as vu ? Lève-toi, mange. Ce sont les seules paroles qu'il va donner. Alors, notons qu'il n'a pas questionné Élie, qu'il n'a pas usé de moyens psychologiques, du style « détends-toi et parle-moi ». Allonge-toi. Il n'a pas pris de carnet de notes non plus. Il ne lui a donné aucun conseil magique comme « allez, donne des pensées positives, secoue-toi un peu ». Non, du tout, du tout. Il va lui donner une nourriture que certains, certainement, vont trouver légère. Hein? Un gâteau et de l'eau. Je ne sais pas si elle était pétillante, mais en tout cas, c'était de l'eau. Un gâteau supravitaminé. Vous savez, c'est ces barres-là qu'on... Non, c'est un gâteau. Un gâteau. Hein, fait par une femme hein, ou un homme, on ne peut pas. Hein. Puis de l'eau, voilà. Mais c'est ce qui va lui permettre de marcher 40 jours, 40 nuits. Alors si je réalise un peu, Dieu nous a donné son Fils. Jésus, c'est le pain vivant qui descend du ciel et il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Alors, manger ce pain, ça signifie quoi ? Manger ce pain, ça signifie quoi ? Ça signifie croire en lui. Pas compliqué, l'évangile. Hein ? Ça signifie croire en lui. Lui seul, c'est le remède au découragement. Et à partir de là, eh bien, c'est de faire nôtre les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, c'est d'y croire, de les assimiler, de les méditer. Vous savez, la vache, elle broute l'herbe et ensuite, ça travaille. Et oui, pour ensuite produire du lait. C'est bon, le lait vitaminé. Hein? Voilà. Alors, c'est de les proclamer également, hein? D'y croire, de les proclamer, de nous y accrocher, de nous y attacher. C'est y faire confiance. Parce que c'est lui le pain qui donne la vie. L'ange la tire sur la montagne. Moi, j'y vois également autre chose. Vous savez, quand on monte, quand on s'élève, Est-ce qu'on va avoir quelque chose de mieux? D'accord? Moi, c'est ces images que je me donne. Hein. Dieu, je le crois, avait une plus grande révélation à lui faire. Amen. Horeb, c'est l'autre nom du Sinaï. D'accord? Ça vous dit quelque chose? Cette montagne sacrée pour les Israélites qui ramenait Élie aux expériences du passé. Amen. Eh oui. Quand Dieu avait donné par Moïse la loi à son peuple, il y avait quand même un témoignage sur cette montagne. Eh oui, eh oui. Quelque part, Dieu veut lui montrer sa grandeur, sa gloire, sa puissance, son autorité. Dieu a beaucoup de moyens pour se révéler, pour bénir et faire triompher son nom. Vous le savez. Nous voyons avec notre petite vision. Vous voyez une vision plus large, plus profonde. Il est capable de voir à l'intérieur de nos cœurs, dans nos esprits, ce qui se passe là à l'instant. Ce que tu es en train de penser. Hein. Des fois, on est surpris. Un jour, il y a un gars qui me disait « Quand tu parlais de ça, j'avais envie de me lever, de t'en mettre deux. » Heureusement qu'on ne voit pas tout ça, nous. Hein? Heureusement, hein? Il avait le temps de se calmer entre-temps. Voilà. Mais Dieu lui voit plus loin. Il sait tout. Il entend tout, même ce qu'on ne dit pas. Ce qui est là. Ça travaille là. Hein? Eh oui, oui, oui. Alors, il a beaucoup de moyens pour se révéler, pour bénir, pour faire triompher son nom. Déjà, il y a le vent, puisqu'il nous a donné certains éléments, on va en parler. Hein? Il y a le vent. Il y a le tremblement de terre, il y a le feu. Mais une chose, c'est qu'ils sont dans sa main, à la droite, hein, parce que c'est la main droite qui travaille. Hein. Ils sont dans sa main. Mais ce n'est pas là qu'il était. Ce n'était pas la révélation dont avait besoin Élie ce jour-là. Quand on dit, allez, secoue-toi. Vous avez vu quand il n'y a plus de ressort. Quand le ressort a été détendu complètement. Il n'y a plus de moyen de se lever. Moi, j'ai visité avec un frère, on a visité une sœur. On se relayait tous les jours, quelqu'un allait la voir. Il fallait aller la voir. On avait beau lui dire, sa mère gardait ses enfants, le mari travaillait, il était représentant. Donc la semaine, elle était seule avec ses gosses. Elle était incapable de se bouger, ne serait-ce que du divan. Elle était incapable, elle n'avait plus de force, elle était au bout du rouleau. Alors, vous pouvez lui dire, allez, secoue-toi. Quoi? C'est impossible. Impossible, ne pouvait pas. Fabienne s'appelle. Pas toi, hein? Fabienne. Eh oui. Qu'est-ce qu'on lui a dit, Fabienne? Puis on a prié pour elle, on a prié pour elle, on a prié pour elle. Tous les jours, on lui parlait d'un verset. Vous savez, c'est la parole. Moi, je c'est la nourriture, c'est la parole. La force, c'est la parole. On a beau lui dire, hein, je ne sais pas, avoir je sais pas, une notice humaine hein, établie par des hommes de science. Mais nous, on avait une ordonnance qui était la parole de Dieu. Hein, la parole de Dieu. Et on lui parlait. Et puis, il a fini par se laisser éclairer. C'est-à-dire qu'il y a eu une faille à un moment donné dans son système, je ne sais pas trop quoi. Elle s'est laissée imprégner par la parole de Dieu. Elle s'est laissée imprégner. Elle a levé la tête. Et là, elle a pu se lever parce que le ressort avait été retendu. Il a été recompressé, donc ça fonctionnait. Et à ce moment-là, elle a compris, elle a saisi. Et la dernière fois où je l'ai vue, c'était à un congrès à Béziers, parce que ça passe à Béziers. À Béziers, elle me dit, Bernard, tu te souviens de moi? Oui. Il dit, qu'est-ce qu'on a passé 8 ans avec toi? Elle me dit, mais tu sais, je me rendais compte de rien. Pour moi, c'était le trou noir. Mais je sais ce que vous avez fait. On a prié, c'est ce qu'on a fait. On a donné la parole de Dieu. On a donné de la nourriture. On a donné de la dynamique. Et voilà. Et puis ça marche. Ça marche. Allez, besoin de cela, de la parole de Dieu. Et ça a marché. Oh, je ne vous dis pas, ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Parce qu'à Sérignan, on y est allé quelques fois, hein, Bernard et moi. Deux Bernard d'ailleurs, tiens. On était deux serviteurs qui s'appelions Bernard. Vous savez ce que ça signifie, Bernard? Je me viens comme ça, là. C'est hors sujet. Hein. Bernard, ça signifie ours dur. Ça vient de l'allemand, Bernard. Ça vous va? Allez, je sais être un ours dur aussi. Hein. Sur mes grands sourires. Alors, en tout cas, voilà. Elle n'était pas dedans. Hein, le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans le feu. Non. Tous ces choses sont dans sa main. Il fait ce qu'il veut. D'accord? Mais voilà que c'est dans un murmure doux et léger que Dieu va parler à Élie. À cette Fabienne, si on l'avait secouée, il pouvait lui dire « Mais tu vas comprendre !» Ça n'aurait jamais marché. Mais on était doux. On était patient. On avait des propos doux. Non pas fatigants, parce qu'on n'avait pas en rajouté la culpabilité. Du tout, ça ne sert à rien. Voilà. Mais on s'est mis à sa portée. Alors, ça montre une chose, c'est que Dieu a beaucoup de moyens. Amen. Dieu peut tout. Moi, je le crois. Et il m'arrive de me trouver face à des personnes qui ne le savent pas. Eh bien, je dois également user de manière adéquate. Amen. Paul disait, je me fais tout à tous, afin si je puis d'en sauver quelques-uns. Pas qu'ils devenaient comme eux. Hein. Non, non, incrédule, non. Paul était croyant. Mais, quelque part, il se mettait à leur portée pour pouvoir leur parler, qu'ils entendent, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent saisir. Et ils ne jugeaient pas. Vous voyez, ils n'étaient pas du droit. Crédule. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je sais ce que tu as vécu. Je sais ce que tu vis. Il m'arrive même de dire à des personnes, écoute, moi, je ne suis pas à ta place, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quelle est ta souffrance. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se méprendre là-dessus. Hein. Le seul qui peut nous comprendre dans ce moment-là, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui lui a souffert sur le bois de la croix. Alors quand je dis que Dieu a beaucoup de moyens, il va susciter un autre roi, Jéhu, d'accord ? Pour remplacer Akab. Akab n'était pas à la hauteur, donc il faut le changer. Il va donner l'onction à Élisée, comme prophète à la place d'Élie. Élie, tu en as assez fait maintenant. Je crois que tu as compris. Des fois, on comprend la fin. Hein et oui, hein, tu as compris. Alors, ça montre une chose également, c'est que nous ne sommes pas indispensables. Si tu te crois indispensable, eh bien, je le regrette de te dire que tu n'es pas indispensable. Que le Seigneur fait ce qu'il veut. Amen. Eh oui. Et puis Élie également l'ignorait bien sûr, mais Dieu avait beaucoup de fidèles encore. Il parlait de ces 7000 hommes en Israël qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, et apparemment Élie ne le savait pas. Tu te crois seul? Certainement Dieu a placé à côté de toi quelqu'un. Tu l'ignores parce que tu es incapable de le voir en ce moment. Hein, le découragement est là. Puis-tu ouvrir les yeux. Regardez voir. Le Seigneur pourvoit en toutes choses. Amen. Non, tu n'es pas seul. D'abord, il y a le Seigneur. Il y a l'Esprit de Dieu. Il y a le Seigneur Jésus. Amen. Et les trois sont d'accord justement pour faire aller les choses dans le bon sens, dans la bonne direction. Le Père, le Fils et l'Esprit. Alléluia. C'est hors sujet. Hein. Quand j'étais donc à l'époque pompier à Carpentras, j'étais également chrétien et membre de l'Assemblée de Carpentras. Puis quand je me suis converti, j'ai découvert qu'il y avait des longues veilles. Vous voyez ? Avec plein d'activités. On passait la soirée ensemble du 31 au 1er. Hein ? Au 31 décembre au 1er janvier. Et puis, d'autres voulaient le 31 aussi. Hein ? Ils voulaient la soirée du 31 pour aller festoyer. Hein ? Et puis on faisait chaque fois un tirage au sort. Courte paille, hein, les petits papiers. J'ai connu tout ça, moi. Hein. Et chaque fois, ça tombait sur moi. D'ailleurs, c'est pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, mais cinq ans. Avant que je parte dans le ministère. Dernière année, j'ai dit, je ne me présente pas. Et puis, j'ai vu qu'il y en a un qui se présentait, que lui voulait toujours tout. Oh, j'ai dit, si il se présente, je me présente aussi. Et j'ai encore gagné. Et mes collègues ont fini par dire, écoutez, mes collègues ont fini par dire « Ouais, mais toi, c'est pas du jeu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec toi. » Sans le savoir, il disait une grande vérité. Amen. Même le monde, quelque part sans le vouloir, est en train de le dire. Donc à partir de là, tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Il y a avec toi le Tout-Puissant. Alors ne te laisse pas démoraliser, ne te laisse pas décourager. Avance. Tu es fils du roi, punaise. Dites-moi. Il est avec toi, le Tout-Puissant. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Il n'y a pas de résultat aujourd'hui, mais demain. Tu sais ce que demain sera fait? Qui le sait? Vous avez vu Madame Soleil? Hein? Alors, puisque le Tout-Puissant est avec toi, réjouis-toi. Fais-lui confiance. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas arrêter. Mais va plus loin, le Seigneur. Ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles à ce que veut te dire l'adversaire. Laisse partir ces choses. Ne les garde pas. Parce que c'est mauvais, parce qu'après ça prend forme. Et le travail se fait, un travail de sape. Écoute la parole de Dieu. T'es pas meilleur? Hein, je goûtais le papier là. Ah, c'était comme du miel. Ah, ça nourrissait mes entrailles. Alléluia. C'est pas le torboyau. Vous voyez quand vous nous faire quelque part assimiler là. Hein? Non, non, c'est pas un torboyau. Ça réjouit mon âme. Ça me fait du bien. Amen. C'est bon, ça soulage. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci parce qu'auprès de toi, nous avons l'assurance de ne jamais être seuls, Seigneur. Pouvoir avancer, Seigneur, et surtout te plaire en te faisant confiance jusqu'au bout. L'adversaire n'a qu'un but, c'est lui, c'est de nous arrêter, c'est de nous stopper, de nous faire dérailler. Mais nous voulons rester tout simplement auprès de toi. Tu as dit que personne ne nous arracherait de ta main, mais que nous pourrions sortir de ta main. Et c'est là le problème. Seigneur, je veux rester dans ta bonne main. Dis-le ce matin, toi aussi. Je veux rester dans ta bonne main, Seigneur. Je veux être gardé, je veux être préservé. Je veux mettre la foi comme ce bouclier qui fait reculer l'adversaire. Alors sois béni, Seigneur. Et merci de visiter ton Église, de faire du bien à ton peuple et à toi la gloire. Amen.